Cet automne-là, vers le milieu du mois d'octobre, Madame Clémence de Hongrie, la reine à la mauvaise fortune qui avait été la seconde épouse de Louis Hutin, mourut à 35 ans, en l'ancien hôtel du Temple, sa demeure. Elle laissait tant de dettes qu'une semaine après sa mort, tout ce qu'elle possédait, bagues, couronnes, joyaux, meubles, linge, orfèvrerie, jusqu'aux ustensiles de cuisine, fut mis aux enchères sur la demande des prêteurs italiens, les Bardi et les Tolomei. Le vieux Spinello Tolomei, traînant la jambe, poussant le ventre, un œil ouvert et l'autre clos, fut à cette vente où six orfèvres priseurs, commis par le roi, firent les estimations. Et tout fut dispersé de ce qui avait été donné à la reine Clémence en une année de précaire bonheur. 4 jours durant, on entendit les priseurs Simon de Cloquette, Jean Pascon, Pierre de Besançon et Jean de Lille crier « Un bon chapeau d'or auquel il y a 4 gros rubis balais, 4 grosses émeraudes, 16 petits balais, 16 petites émeraudes et 8 rubis d'Alexandrie prisés 600 livres, vendus au roi. Un doigt où il y a 4 saphirs, dont 3 carrés et 1 cabochon prisés 40 livres, vendus au roi. Un doigt où il y a 6 rubis d'Orient, 3 émeraudes carrées et 3 diamants d'émeraude prisés 200 livres, vendus au roi. Une écuelle de vermeil. 25 anapes, 2 plateaux, 1 bassin, prisé 200 livres, vendu à Monseigneur d'Artois, comte de Beaumont. 12 anapes en vermeil émaillées aux armes de France et de Hongrie, une grande salière en vermeil portée par 4 babouins, le tout pour 415 livres, vendu à Monseigneur d'Artois, comte de Beaumont. Une boursette brodée d'or, semée de perles et de doubles, et dedans la bourse il y a un saphir d'Orient, prisé 16 livres, vendu au roi. La compagnie des Bardi acheta la pièce la plus chère, une bague portant le plus gros rubis de Clémence de Hongrie et estimée 1000 livres. Ils n'avaient pas à la payer, puisque cela viendrait en diminution de leur créance, et ils étaient sûrs de pouvoir la revendre au pape, lequel, autrefois leur débiteur, disposait maintenant d'une fabuleuse richesse. Robert d'Artois, comme pour prouver que les hanapes et autres services à boire n'étaient pas son seul souci, acquit encore une Bible en français, pour 30 livres. Les habits de chapelle, tuniques, dalmatiques, furent achetés par l'évêque de Chartres. Un orfèvre, Guillaume le Flamand, eut à bon compte le couvert en or de la reine défunte. Des chevaux de l'écurie, on tira 692 livres. Le char de Madame Clémence et le char de ses demoiselles suivantes furent mis aussi à l'encan. Et quand tout fut enlevé de l'autel du Temple, on eut le sentiment de fermer une maison maudite. Il semblait vraiment cette année-là que le passé s'éteignait, comme de lui-même, pour faire place nette au nouveau règne. L'évêque d'Arras, Thierry d'Hirson, chancelier de la comtesse Mao, mourut au mois de novembre. Il avait été pendant 30 ans le conseiller de la comtesse, un peu son amant aussi, et son serviteur en toutes ses intrigues. La solitude s'installait autour de Mao. Robert d'Artois fit nommer au diocèse d'Arras un ecclésiastique du parti valois, Pierre Roger. Tout était défavorable à Mao, tout se montrait favorable à Robert, dont le crédit ne cessait de grandir et qui accédait aux suprêmes honneurs. Au mois de janvier 1329, Philippe VI érigeait en Péri le comté de Beaumont-de-Roger. Robert devenait père du royaume. Le roi d'Angleterre, tardant à rendre son hommage, on décida de saisir à nouveau le duché de Guyenne. Mais avant de mettre la menace à exécution armée, Robert d'Artois fut envoyé en Avignon pour obtenir l'intervention du pape Jean XXII. Robert passa au bord du Rhône 2 semaines enchanteresse, car Avignon, où tout l'or de la chrétienté affluait, était, pour qui aimait la table, le jeu et les belles courtisanes, une ville d'agrément sans égal, sous un pape octogénaire et ascète, retrait dans les problèmes d'administration financière, de politique et de théologie. Le nouveau père de France eut plusieurs audiences du Saint-Père. Un festin fut donné en son honneur au château pontifical, et il s'entretint doctement avec nombre de cardinaux. Mais, fidèle au goût de sa tumultueuse jeunesse, il eut rapport aussi avec des gens de plus douteuse alloi. Où qu'il fût, Robert attirait à lui, et sans prendre aucune peine, la fille légère, le mauvais garçon, l'échappé de justice. N'eût-il existé dans la ville qu'un seul receleur, il le découvrait dans le quart d'heure. Le moine chassé de son ordre pour quelque gros scandale, le clerc accusé de larcin ou de faux serment piétinait dans son antichambre pour quêter son appui. Dans les rues, Il était souvent salué par des passants de basse mine, dont il cherchait vainement à se rappeler en quel bordel, de quelle ville il les avait autrefois rencontrés. Il inspirait confiance à la truanderie, c'était un fait, et qu'il fût à présent le second prince du royaume français n'y changeait rien. Son vieux valet Lormet, le Daulois, trop âgé à présent pour les longs voyages, ne l'accompagnait pas. Un gaillard plus jeune, mais formé à pareille école, Gilet de Nesle, emplissait le même rôle et se chargeait des mêmes besognes. Ce fut Gilet qui rabattit sur Monseigneur Robert un certain Massiot l'Allemand, sergent d'armes sans emploi, mais prêt à tout faire, et qui était originaire d'Arras. Ce Massiot avait bien connu l'évêque Thierry d'Hirson. Or, l'évêque Thierry, en ces dernières années, avait une amie de cœur et de couche, une certaine Jeanne de Divion, de 20 bonnes années plus jeune que lui, et qui se plaignait assez haut maintenant des ennuis que lui causait la comtesse Mao depuis la mort de l'évêque. Si Monseigneur voulait entendre cette dame de Divion... Robert d'Artois constata une fois de plus qu'on s'instruit beaucoup auprès des gens de petite réputation. Certes, les mains du sergent Massiot n'étaient pas celles auxquelles on eût pu confier le plus sûrement sa bourse, mais l'homme savait de fort intéressantes choses. Vêtu de neuf et remonté d'un cheval bien gras, il fut expédié vers le nord. Rentré à Paris au mois de mars, Robert se frottait les mains et affirmait que du nouveau allait se produire en Artois. Il parlait d'actes royaux dérobés jadis par l'évêque Thierry, pour le comte de Mao. Une femme au visage encapuchonné passa plusieurs fois à la porte de son cabinet, et il eut avec elle de longues conférences secrètes. On le voyait de semaine en semaine plus confiant, plus joyeux, et annonçant avec plus de certitude la prochaine confusion de ses ennemis. Au mois d'avril, la cour d'Angleterre, cédant aux recommandations du pape, envoya de nouveau à Paris l'évêque Orleton, avec une suite de 72 personnes, seigneurs, prélats, docteurs, clercs et valets, pour négocier la formule dommage. C'était un vrai traité qu'on se disposait à conclure. Les affaires d'Angleterre n'étaient pas au plus haut. Lord Mortimer n'avait guère accru son prestige en se faisant conférer la pairie et en obligeant le Parlement à siéger sous la menace de ses troupes. Il avait dû réprimer une révolte armée des barons unis autour d'Henri de Lancastre au Torscol, et il éprouvait de grandes difficultés à gouverner. Au début de mai mourut le brave gaucher de Châtillon, à l'entrée de sa 80e année. Il était né sous Saint-Louis, et avait exercé 27 ans la charge de connétable. Sa rude voix avait souvent changé le sort des batailles, et prévalu dans les conseils royaux. Le 26 mai, le jeune roi Édouard III, ayant dû emprunter, comme l'avait fait son père, 5000 livres au banquier lombard, afin de couvrir les frais de son voyage, s'embarquait à Douvres pour venir prêter hommage à son cousin de France. Ni sa mère Isabelle, ni Lord Mortimer ne l'accompagnaient, craignant trop, s'il s'était absenté, que le pouvoir ne passât en d'autres mains. Un souverain de 16 ans, confié à la surveillance de deux évêques, allait donc affronter la plus impressionnante cour du monde. Car l'Angleterre était faible, divisée, et la France était tout. Il n'était pas de nation plus puissante que celle-ci dans l'univers chrétien. Ce royaume prospère, nombreux en hommes, riche d'industrie, comblé par l'agriculture, mené par une administration encore compétente et par une noblesse encore active, semblait le plus enviable, et le roi trouvé qui le gouvernait depuis un an, ne récoltant que des succès, était bien le plus envié de tous les rois de la terre.